France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Provisoire des grands électeurs, Joe Biden va gagner l'élection présidentielle et deviendra le 20 janvier prochain le 46e président des États-Unis. Une élection au forceps dans une Amérique divisée comme jamais, où la vague bleue prévue par les instituts de sondage s'est avérée une vaguelette, même si elle a modifié significativement la carte politique du pays. Les vociférations du président sortant ajoutent à la colère de ses partisans et affaiblissent la confiance vis-à-vis d'un processus démocratique surprenant d'archaïsme. Si Donald Trump l'exige, au risque d'embarrasser de plus en plus ouvertement les caciques du Parti républicain, le recomptage et les recours en justice au niveau des cours suprêmes de deux États ne sont pas à exclure, mais on voit mal, dans un tel climat, la Cour suprême fédérale accepter de s'en emparer. Voilà donc enclenché cet entre-deux, où d'ordinaire, entre politiciens et hauts fonctionnaires soucieux de l'intérêt supérieur du pays, la période de transition s'accompagne pendant deux mois d'une transmission organisée des dossiers. Cette fois, la passation risque d'être chaotique. Quelles sont néanmoins les questions clés sur le plan international auxquelles la prochaine administration sera confrontée, pour nous, Européens, mais aussi vis-à-vis de la Chine, de la Russie, de l'Iran? Que faut-il en attendre? Continuité ou virage sur l'aile? Le multilatéralisme mis à mal pendant quatre ans sera-t-il restauré? Que sait-on de l'entourage de Joe Biden? Qui seront ses proches collaborateurs à la Sécurité nationale, au Département d'État ou au Pentagone? C'est ce que nous allons découvrir ce matin grâce à vous. Maya Kandel, bonjour, vous êtes historienne, chercheuse associée à l'Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Alice Ekman, vous êtes analyste responsable de l'Asie à l'EUISS. Thomas Gomard, directeur de l'Institut français des relations internationales. Cyril Brett, maître de conférence à Sciences Po Paris. Et de Moscou, par téléphone, et je l'en remercie d'avance, Igor Jurgens, qui dirige l'Institut de développement contemporain. Thomas Gomard, au-delà de la cacophonie politique qui dure depuis quatre jours au moins, le bilan de Donald Trump en politique étrangère, en fait, affiche des gestes spectaculaires, des options stratégiques fortes. Il a insulté les alliés, rompu les traités, brutalisé, on le sait, les organisations multilatérales. Il a eu des coups de cœur pour Vladimir Poutine, pour Erdogan, pour le Nord-Coréen Kim Jong-un. Par rapport à ce bilan, qui reste néanmoins réel, solide, impressionnant, que va faire, quels sont les signaux que peut émettre ou envoyer Joe Biden?
Très certainement, ce sont des signaux dans le sens du multilatéralisme. Joe Biden a annoncé qu'il rejoindrait l'accord de Paris dès le premier jour de sa présidence. Il a également annoncé des mesures pour essayer de revenir dans l'accord sur le nucléaire iranien. Donc on va probablement avoir une sorte d'attitude plus positive en termes de multilatéralisme. Cela étant, je pense que le bilan de Donald Trump en politique étrangère, avec tout ce que vous avez mentionné, peut-être faut ajouter qu'il n'a pas, à mes yeux, fait d'erreur stratégique majeure comme on pouvait le redouter en 2016. Et notamment, je pense qu'il a même fait preuve d'une certaine retenue, d'une certaine mesure. Était-elle calculée ou était-elle, au fond, le fruit des contingences, ça, l'histoire le dira. Mais vis-à-vis, par exemple, de l'Iran, il a su, d'une certaine manière, retenir le feu, on s'en souvient, et il a su tuer le général Soleimani sur le territoire irakien. Ce qui, là aussi, était quelque chose, peut-être, d'inattendu, quand on se replace en 2016. La deuxième chose, si vous voulez, qui me frappe dans cette période de transition, cette entre-deux que vous mentionniez dans votre propos introductif, c'est que tout le monde s'attend effectivement à une attitude, je dirais, plus digne, plus exemplaire de la part de Joe Biden. Il l'a d'ailleurs annoncé, et à titre personnel, ce ne sera pas difficile pour lui de se singulariser par rapport à Donald Trump. En revanche, Je pense que ça sera beaucoup plus difficile après ces 4 ans de présidence chaotique de restaurer une image et un positionnement international des États-Unis précisément basé sur la dignité et l'exemplarité. C'est-à-dire que d'une certaine manière, à mes yeux, l'exceptionnalisme américain est peut-être mort avec la présidence Trump. Et il sera très difficile pour Joe Biden de le ressusciter. Dernier point, à mes yeux, quand on réfléchit à cette passation de pouvoir, je crois qu'il faut distinguer le niveau diplomatique dont j'ai dit un mot à propos du multilatéralisme et qu'on pourra développer dans la discussion, de ce qui relève de la grande stratégie américaine, sur laquelle je n'attends pas d'évolution majeure de la part de Joe Biden. Et je voudrais d'ailleurs me référer plutôt aux propos que je trouve très annonciateurs de Pompeo, de Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, en juin dernier. Vous vous en souvenez peut-être, à l'occasion de ses relations avec le Royaume-Uni, il avait dans la même phrase relié la problématique de la 5G, c'est-à-dire l'enjeu des télécommunications, la problématique d'HSBC, la banque et les enjeux financiers, et la problématique des nuclear plants et du nucléaire. Et je pense que c'est très révélateur de l'attitude que auront les États-Unis avec Joe Biden, c'est-à-dire au fond de subordonner leur politique énergétique, leur politique climatique, leur politique commerciale, etc., leur politique technologique à la rivalité sino-américaine, qui, de mon point de vue, sera le fil rouge de la présidence Biden.
Précisément, Alice Ekman, on a vu tout au long de la présidence Trump, et singulièrement avec l'émergence de la pandémie, une espèce d'escalade verbale, des deux côtés d'ailleurs, mais il faut reconnaître surtout de la part de la Maison-Blanche au départ, et ce duel frontal a été un argument de campagne autant côté républicain que côté démocrate. On a vu que Biden a fait de grands efforts pour ne pas être accusé d'être, entre guillemets, mou vis-à-vis de Pékin. Quelles sont aujourd'hui les réactions face au chaos, ce qu'il faut bien l'appeler, le chaos électoral américain à Pékin?
Comme à Pékin, comme à chaque fois, la propagande souligne toutes les faiblesses de l'Occident, hein, réelles ou supposées. Bien sûr, aujourd'hui, des images tournent en boucle de ce dépouillement qui est en effet particulier, avec le comptage, les boîtes en plastique, les enveloppes qui s'amoncellent. Ça, on le voit au JT chinois, bien sûr, on le voit dans le monde, mais la Chine développe sur ce sujet en disant que ce sont des techniques, des méthodes de pays en développement. Ensuite, après ces sujets-là, au JT chinois, on voit un sujet entier sur le chômage aux États-Unis, sur les chiffres problématiques en termes économiques, sur les sans-abri dans la rue. Enfin voilà, c'est la puissance en déclin, c'est comme ça qu'elle est perçue et qu'elle est surtout présentée à l'ensemble de la population chinoise, et ça va continuer dans les prochaines années. Et en aparté, la Chine fait également cela concernant l'Europe. Elle n'hésite pas à souligner les crises par contraste pour montrer qu'elle arrive à mieux gérer à la fois les crises et d'autres événements qui à venir dans les prochaines années. On l'a vu avec la crise de Covid, une espèce de glorification de la méthode chinoise par rapport à d'autres gestions d'autres pays, et ce narratif va continuer dans les prochaines années, parce qu'on est vraiment là arrivé dans une rivalité très vive entre Pékin et Washington. Et comme vous l'avez mentionné, il existe aujourd'hui un relatif consensus bipartisan entre démocrates et républicains sur le fait que la Chine est une menace pour les intérêts américains. Donc je ne pense pas qu'il faut attendre un changement de cap de la part de l'administration Biden vis-à-vis de la Chine. Peut-être un changement de méthode, parce que comme vous l'avez dit, et pour nuancer ce que disait Thomas Gomard, il n'y a pas eu de retenue vis-à-vis de la Chine du tout, d'un sens comme dans l'autre. Les mots sont très durs, mais aussi les faits et les décisions. L'administration américaine, le département du commerce, a publié une liste d'entités chinoises considérées comme non fiables, principalement des entreprises technologiques. Et donc la rivalité à la fois commerciale et technologique, à mon avis, va se prolonger dans les prochaines années. Et un sujet qui va de plus en plus remonter en haut de l'agenda est celui des droits de l'homme. Parce que, clairement, là, c'est sur ce point-là réellement que les démocrates vont se distinguer des républicains. républicain, en soulignant davantage les problèmes au Xinjiang, la situation à Hong Kong, mais aussi au Tibet, puisque Joe Biden a indiqué qu'il rencontrerait le Dalai Lama.
Néanmoins, Alice Ekman, il y a quand même deux abcès qui sont Hong Kong et surtout Taïwan, où on a vu, de la part de l'administration Trump, une montée en puissance du soutien à Taipei. Et là, on le sait, pour Pékin, c'est une obsession et c'est la source d'irritation numéro un.
Oui, Taïwan va continuer à cristalliser plus que jamais les tensions entre Pékin et Washington. La situation est vraiment très tendue dans le détroit de Taïwan aujourd'hui, pour différentes raisons, parce qu'il y a aussi la réélection de la présidente Tsai Ing-wen il y a peu, parce que
une maîtrise remarquable de la pandémie à Taïwan, ce qui est un même
tout à
si
fait,
la
et donc,
Chine
qui rentre aussi dans cette compétition de modèles et de systèmes de gestion de la crise avec une dimension aussi diplomatique très vive. Il y a aussi des ventes d'armes, puisque il y a quelques jours, Washington a approuvé la vente de drones tueurs à Taïwan. Ces ventes, à mon avis, vont pas être remises en cause sous Biden. Et puis, il y aura encore des visites de haut niveau. Côté chinois, Xi Jinping a dit que la réunification restait plus que jamais un objectif, qu'il ne fallait pas le reporter d'une génération à l'autre. Donc, est-ce qu'une génération, quel est le temps envisagé, le calendrier envisagé par Xi Jinping pour récupérer Taïwan, si je puis dire? Cela, on ne le sait pas, mais c'est vrai qu'un incident entre Pékin et Washington peut vite escalader et devenir escalader en conflit militaire. En tout cas, c'est le point, de mon point de vue, le plus chaud dans la région. Et dans la méthode, je pense que l'administration Biden sera moins direct dans son soutien à Taïwan, même si ce soutien sera toujours très fort. Vous vous souvenez que Donald Trump, lorsqu'il était arrivé à la présidence, quand Tsai Ing-wen, peu de temps après, avait été élue présidente, il avait tweeté pour la féliciter en parlant de présidente. Il a tweeté tous azimuts, mais les symboles, quand on parle de Taïwan, sont très importants. Et parler de présidente, c'est-à-dire qu'il reconnaissait l'existence d'un État indépendant, et ça avait suscité de très vives réactions côté chinois.
Maya Kandel, bonjour. Restons sur ce consensus entre républicains et démocrates que Alice Ekman soulignait à l'instant à propos de la Chine. Ce consensus va être mis à mal en fonction, semble-t-il, de la composition du Sénat américain, puisqu'il n'y a pas eu de vague bleue au niveau de ces élections-là, et il reste, je crois, deux sièges en suspens qui ne seront arbitrés par des élections en Géorgie au mois de janvier. Donc il y a évidemment pour l'administration Biden, la prochaine administration, un risque réel que le Parti républicain garde la main sur le Sénat. Est-ce que, en ce qui concerne le Moyen-Orient, vous imaginez une même continuité, un même consensus à l'œuvre s'agissant de la reconnaissance de Jérusalem, capitale d'Israël, et du développement d'un jeu régional ouvert, ne serait-ce qu'à partir des relations diplomatiques et commerciales entre Israël et les Émirats ou Bahreïn?
Alors, c'est intéressant cette différence entre... Moi, je pense qu'on peut caractériser, on peut parler d'une vague bleue en termes de résultats de vote au niveau national. Pour l'instant, Biden a déjà plus de 4,4 millions de voix d'avance sur son adversaire au niveau national. Mais le système de vote et la déception au Congrès fait qu'effectivement, les républicains risquent de conserver le contrôle du Congrès. J'en reparle simplement parce que la marge au niveau national, ça donne quand même ou pas un mandat au président élu, au président Biden. Et en revanche, si les républicains conservent le contrôle du Sénat, ça va limiter l'ambition qui était avant tout intérieure d'un président Biden élu. Donc, il faut du coup regarder effectivement un certain nombre de continuités de Trump à, enfin, de continuités qui étaient déjà présentes finalement d'Obama à Trump. Et en effet, un des points importants, c'est cette volonté de désengagement, de mise à distance du Moyen-Orient. Ce qu'on constate aussi, c'est que s'il y a bien un point où les républicains et les démocrates se retrouvaient, c'était sur cette idée, ce slogan de la fin des guerres sans fin au Moyen-Orient. Donc volonté, là encore, de ne pas se retrouver entraîné dans des interventions militaires au Moyen-Orient.
Et le retrait, pardon, je vous interromps, mais le retrait annoncé avant Noël d'Afghanistan et d'Irak, enfin de ce qui reste de troupes américaines sur place.
Voilà, et alors à partir de là, il y a deux choses. C'est-à-dire que d'une part, je ne pense pas que Biden voudra utiliser trop de capital politique sur un sujet de politique étrangère qui est considéré aux États-Unis comme important moins pour la politique étrangère américaine. Hein. Il y a un texte d'un démocrate, Martin Indy, qui disait « Le Moyen-Orient ne compte plus pour les États-Unis ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve aussi bien côté républicain que côté démocrate. Sur un certain nombre d'évolutions engagées par Trump, notamment le déplacement de la capitale, de l'ambassade, pardon, à Jérusalem, Biden a d'ores et déjà dit qu'il ne reviendrait pas là-dessus. Et il n'a pas vraiment intérêt non plus à revenir sur les derniers accords que Trump a engagé de normalisation d'Israël et de réintégration dans le jeu régional. Si vous voulez, là, il y a quand même une tendance importante de fond qui est que on a du coup une autonomie plus importante des acteurs locaux.
Mais qu'en est-il de l'Arabie Saoudite? Parce qu'on sait que le gendre de Donald Trump, qui a été à l'œuvre, il faut le reconnaître, sur ce chantier-là, a des relations étroites avec le prince héritier saoudien. Et il semblait que l'administration Trump poussait de plus en plus Riyad à officialiser, sinon des relations diplomatiques réelles, en tout cas un réchauffement de ses relations avec Israël. Est-ce que vous pensez qu'avant janvier, au moment où il y a réellement une passation de pouvoir, Pompeo et Kushner vont essayer de pousser les feux à Riyad?
Alors, ils vont certainement essayer. Ensuite, je pense que les acteurs, encore une fois, les acteurs de la région vont être particulièrement prudents à partir du moment où ils savent que, à partir du 20 janvier 2021, il y aura un autre président, a priori, hein, à la Maison Blanche. Et donc, il n'y a aucune raison qu'ils brûlent toutes leurs cartes avec une équipe sortante.
Bien sûr. Une réaction intéressante ce matin du président iranien, Hassan Rouhani, qui exprime l'espoir que la prochaine administration américaine, je le cite, aura appris l'échec de sa politique de pression contre Téhéran. S'agissant de l'Iran, est-ce que on peut s'attendre à ce que la prochaine administration américaine renoue avec les Européens dans leur désir de relancer l'accord sur le nucléaire ?
Alors, je pense qu'il y a très clairement une priorité pour une nouvelle administration démocrate, mais qu'on pouvait déjà trouver un peu l'administration de Trump. La philosophie ne sera pas tout à fait la même, mais c'est de mettre en avant la diplomatie, de s'appuyer sur la diplomatie avant tout au Moyen-Orient. Les Européens, évidemment, sont des partenaires naturels des Américains s'ils veulent renouer avec une approche plus diplomatique, davantage de coordination. Mais encore une fois, il y a un certain nombre d'urgences avec des conflits en cours qui font intervenir aussi d'autres acteurs extérieurs, hein, la Russie, la Turquie. Donc là, il y a aussi, une des continuités d'Obama à Trump, c'était quand même cette volonté de mettre à distance donc le Moyen-Orient. Et à partir de là, il y a déjà moins de contrôle. Les événements dans la région dépendent moins, en fait, de l'action des États-Unis. Et je pense que là, c'est quand même une évolution très importante. Sur la stratégie de pression maximale, cet été, Brian Hook, qui était aux États-Unis l'un des responsables, a démissionné. Est-ce que ça vaut aveu d'échec de cette stratégie? Je crois quand même que l'élimination du général Soleimani en janvier par les États-Unis a aussi les sanctions et la stratégie de pression maximale font aussi que les Iraniens eux-mêmes ont moins de contrôle sur leurs proxys dans la région, les groupes qui contrôlés assez bien et par laquelle à travers lesquels ils exercent leur politique étrangère régionale. Donc là, on a vraiment une autonomie plus grande, une situation tout simplement qui échappe au contrôle en partie au contrôle des principaux acteurs qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc davantage d'autonomie. Sur l'accord sur le nucléaire iranien, il faut bien voir que tous les candidats démocrates aux primaires et Biden aussi ont souvent dit qu'ils rejoindraient l'accord. Le problème, c'est que cet accord avait un certain nombre de dispositions qui
n'ont pas été respectées.
Voilà, et puis qui font
et de moins en moins respectées par Téhéran. J'aimerais avec vous, Cyril Brett, bonjour. Vous êtes maître bonjour. De conférence à Sciences Po. Précisément, en restant sur ce dossier iranien, nous placer du point de vue européen. Selon vous, avec cette prochaine administration, est-ce que les Européens qui ont signé cet accord auront à cœur de se remettre à l'ouvrage, c'est-à-dire Paris, Berlin, Londres.
Pour Paris et Berlin, Londres, pour les Européens, le sauver cet accord nucléaire avec l'Iran sera sans doute un point de convergence sur le fond des dossiers, dans les objectifs stratégiques d'une éventuelle et probable administration Biden. Il s'agit d'un dossier qui intéresse directement, évidemment, la sécurité de l'Europe. En revanche, je pense que les points de convergence entre les Européens d'un côté et l'administration américaine Biden de l'autre ne doivent pas non plus être surestimés. Bien sûr, il y aura le changement et l'inflexion très nette dans la méthode, dans le style, dans la façon de fonctionner de la politique étrangère américaine. En revanche, les objectifs stratégiques américains dans la région, eux, ne vont pas changer drastiquement. On peut même penser que les objectifs de contrer l'expansionnisme russe, de contrer également la volonté des Européens de se doter d'une défense autonome, eux resteront et seront traités d'une façon qui sera plus civile, qui sera moins brutale, qui sera vraisemblablement plus facile à supporter et plus prévisible pour les appareils diplomatiques européens, mais qui ne changeront pas drastiquement sur le fond.
Précisément, s'agissant de l'OTAN, on a vu à quel point Donald Trump a tantôt méconnu la réalité de l'Alliance Atlantique, tantôt maltraiter les alliés et ce que Madame Merkel en particulier a très mal supporté. On se souvient quand Donald Trump, au plus haut de la première vague de la pandémie, même si hélas aux États-Unis c'est une vague continue depuis le début, il avait suggéré une réunion du G7 à Washington. Madame Merkel avait dit non. Et à ce moment-là, Donald Trump avait retiré des troupes américaines des bases de l'OTAN en Allemagne pour les transférer en Pologne. S'agissant de l'OTAN, est-ce que vous pensez, Cyril Brett, que l'Alliance Atlantique sera à nouveau au centre, si j'ose dire, de la carte des intérêts américains de la prochaine administration ?
Rassurer les alliés en général et rassurer les alliés en Europe en particulier est une des priorités affichées par le candidat Biden depuis plusieurs mois. Et on est à peu près certain que l'administration Biden ménagera bien davantage la relation transatlantique, voire essaiera de la restaurer. En revanche, si un sommet de l'OTAN est organisé dès mars avec le président Biden, toutefois, on assistera à la réaffirmation d'une ligne continue entre les administrations Obama, Trump et Biden, qui est la volonté de faire en sorte que les alliés européens, mais aussi alliés asiatiques, on en parlera sans aucun doute, participent davantage à leur propre sécurité. C'est la thématique du partage du fardeau, du burden sharing. Et de ce point de vue-là, si l'appareil diplomatique classique, si les techniques de négociation plus traditionnelles, l'abandon de la diplomatie du tweet rassurera les alliés européens, toutefois, je pense que cette thématique-là fait partie des succès de l'administration Trump en Europe, puisque un tiers maintenant des alliés de l'OTAN ont porté leurs dépenses de sécurité et de défense au-delà des fameux 2% fixée par le président Trump en accusant certains États européens d'être des délinquants. Et je pense que l'administration Biden ne reviendra en aucun cas sur cet objectif et sur la nécessité pour les Européens d'augmenter leur effort budgétaire de défense, la plupart du temps d'ailleurs, dans l'intérêt du complexe militaro-industriel américain et non pas de la BITD européenne.
Qu'en sera-t-il de la position vis-à-vis de la Turquie et du comportement pour le moins offensif du président Erdogan ?
Là encore, je pense qu'il faut avoir une analyse en deux temps. Le candidat Biden a constamment réaffirmé qu'il adopterait à l'égard de la Turquie dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine des sanctions économiques, dans le domaine des sanctions vis-à-vis de la volonté de la Turquie de se doter de systèmes de défense antiaérienne russe, d'un ton beaucoup plus dur. La crédibilité, disons, de sanctions américaines à l'égard de la Turquie sera renforcée. Toutefois, là encore, je pense qu'il y a un élément de continuité qui est très important à souligner. En aucun cas, l'administration Biden ne voudra arbitrer entre les différents alliés de l'OTAN, qu'il s'agisse de la Turquie d'un côté et de la Grèce de l'autre, pour promouvoir avant tout les intérêts américains. Il ne faut pas espérer de l'administration Biden qu'elle défendra les intérêts stratégiques européens, même si elle viendra à une façon de fonctionner, une coopération avec les Européens qui sera plus poussée, plus douce et plus fluide.
Partons maintenant à Moscou, vous rejoindre. Igor Jurgens, bonjour, merci d'être avec nous par téléphone.
Bonjour.
Je rappelle que vous dirigez l'Institut de développement contemporain à Moscou. Igor, quelles sont les réactions à la fois médiatiques et politiques face à ce qu'il faut bien appeler, encore une fois, le chaos qu'affiche le processus démocratique américain ?
Oui, commençons par médiatique, c'est l'ironie, sarcasme, c'est les blagues très bas, etc., etc. Donc, en ce qui concerne les médias officiels. Sur les réseaux sociaux, l'analyse est beaucoup plus profonde et les gens soulignent, les vrais experts, ils soulignent que le système démocratique, ça marche. C'est intact, c'est très 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 intéressant d'avoir la compétition comme ça. C'est rien de comparable à ce que nous avons ici à Moscou. Donc c'est un mélange de l'appréciation positive et sarcasme absolument incroyable. Mais en ce qui concerne les relations entre la Russie et les États-Unis, dans le plan historique, je peux vous dire que c'était toujours plus difficile pour les Russes et pour les Soviétiques de travailler avec les démocrates par rapport aux républicains et dans les années de Kennedy, c'était presque la guerre de Caraïbes. Maintenant, on attend les choses d'aggraver sur le plan des droits de l'homme, d'affaires Navalny, de Biélorussie, différentes autres choses. Mais il y a un seul espoir que à partir de certains moments, en janvier, on peut commencer ou recommencer de parler sur les accords désarmement nucléaire.
Oui. Mais on se souvient, Igor Jurgens, que qu'entre Donald Trump et Vladimir Poutine, il y avait dès le départ une relation d'homme à homme assez forte et que Donald Trump affichait, on se souvient d'une réunion tout à fait hors du commun à Helsinki, où en gros Donald Trump avait dit qu'il croyait davantage le président russe que ses propres services de renseignement concernant l'ingérence de certains services russes dans sa propre élection en 2016. Est-ce qu'il y a eu une sorte de déception amoureuse ou est-ce que, vu du Kremlin, il y avait quand même l'espoir d'une réélection de Trump perçue comme un atout pour continuer à chambouler le système traditionnel occidental ?
Maintenant, il n'y a plus d'espoir, à mon avis. Selon les porte-paroles de Kremlin, il comprend très bien que les chances sont minimales donc pour avoir Trump à nouveau. Et malgré tous les rumeurs de cette amitié entre Trump et Poutine, la réalité était tout à fait différente parce que le Congrès
dominé par les démocrates, on fait en sorte que les Russes bougent pas nulle part, parce que les sanctions sont dures, parce que Trump peut pas faire grand chose en dehors des parlements américains. Donc, on attend que Biden sera plus dur sur les dossiers humanitaires, droits de l'homme et différents d'autres, mais on attend quand même que sur le désarmement, on va avoir une chance de continuer de parler au moins. Mais les Russes, maintenant, nous avons les mains pleines de problèmes autour de nous. Hein, à partir de Géorgie, ensuite les Moldavies, Nagorno-Karabakh, l'Ukraine. Non, c'est plutôt le pagaille autour de frontières russes qui doit être traîné par Monsieur Poutine qui a l'air d'être un peu en distance de chez nous, à vrai dire.
Merci mille fois Igor Jurgens pour cet éclairage de vue de Moscou. Thomas Gomard, on a entendu plusieurs de nos amis au cours de cette discussion évoquer la question des droits de l'homme. Est-ce que l'administration Biden va en faire à nouveau une priorité de sa politique, même si le crédit moral, comme vous l'indiquiez tout au début de cette conversation, le crédit moral des États-Unis est quand même bien flétri.
Oui, ça va limiter la portée de cet investissement sur le thème des droits de l'homme qui est prévisible, qui est annoncé. Mais je pense qu'il aura effectivement un caractère assez irritant en réalité s'il est trop mis en avant dans les premiers mois de la présidence Biden. Si vous voulez, pour moi, il y a au-delà de la question des droits de l'homme, le vrai sujet à mon avis de cristallisation, c'est quand même l'OTAN dont Cyril Bray a parlé. Et pourquoi? Parce que c'est le cœur de la relation transatlantique, c'est le lien avec la Turquie. C'est évidemment le lien aussi avec la Russie, c'est le lien avec l'Afghanistan et la volonté de mettre fin aux guerres sans fin. Et pour beaucoup à Washington, ça doit devenir un outil dans la rivalité sino-américaine. Et de ce point de vue-là, je pense intéressant de noter que le président du groupe de réflexion sur l'avenir de l'OTAN, qui d'ailleurs avait été suscité par les déclarations d'Emmanuel Macron sur l'OTAN en état de mort cérébrale, est Wes Mitchell, qui a servi l'administration Trump au début et qui a, dans ses derniers écrits, on sent poindre la volonté précisément de faire pivoter l'OTAN et de l'inscrire dans cette grande stratégie vis-à-vis de la Chine. Donc, ça, je pense qu'il faut suivre ça de manière très très attentive parce que j'y vois un fil rouge et j'y vois effectivement ce qu'indiquait Cyril Bray, c'est-à-dire le fait que derrière le partage du fardeau sur lequel les administrations Obama, Bush d'ailleurs, hein, Bush, Obama, Trump et probablement Biden vont insister, va apparaître la question du partage du risque vis-à-vis de la Chine. Et que, de ce point de vue-là, il va y avoir une demande de partage de risques, avec toujours la volonté chez les États-Unis, l'administration Biden sera évidemment dans ce courant-là, de favoriser pas seulement l'article 5, mais également, pour paraphraser la formule célèbre de Florence Parly, l'article F-35. Ce que je veux dire par là, c'est que il va y avoir toujours de la part de l'administration Biden une volonté de faire bouger les Européens sur la Chine avec du matériel américain, au sens avec des investissements de défense américains.
Alice Ekman, précisément, vu de Pékin, est-ce que la reconstitution d'une sorte de front occidental apparaît sinon comme une menace, en tout cas comme une contrainte avec laquelle il va falloir compter davantage?
Alors, une chose est sûre, c'est que l'administration Trump, les orientations prises vis-à-vis de la Chine en Asie, va laisser des traces. Et face à ça, la Chine trace sa route. C'est-à-dire que quel que soit Les évolutions que l'on notera dans les prochaines années, Pékin va probablement essayer de limiter coûte que coûte sa dépendance vis-à-vis du marché américain, des technologies américaines, des composants étrangers plus largement. Mais vous avez raison concernant l'alliance et concernant la volonté de Joe Biden de rassurer les alliés, et cela dès les premiers mois au pouvoir. Cela n'est pas à l'avantage de la Chine. Alors, c'est pas un problème en soi pour la Chine, mais disons que sous Trump, la Chine avait profité des tensions transatlantiques, des tensions entre les États-Unis et ses alliés, également en Asie, tensions et les discours sur, on en a parlé, le partage du fardeau, sur la contribution et sur aussi la présence américaine, militaire américaine dans la région, y compris en Corée du Sud. Et ces tensions-là avaient été exploitées par la Chine, à la fois en termes de communication, mais aussi en termes d'action, parce qu'au même moment, la Chine ne cessait de proposer des alternatives telles que les nouvelles routes de la soie, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures en 2014, etc., etc. Et la Chine espère vraiment, à terme, éroder l'alliance occidentale et créer ce qu'elle appelle un cercle d'amis, c'est-à-dire un partenariat assez flexible entre un nombre aussi large que possible de pays, y compris des pays qui ont des liens de sécurité avec les États-Unis. Alors ça paraît contre-intuitif, mais pour la Chine, plus il y a de confusion au sein de l'alliance, plus c'est positif pour ce projet de partenariat chinois qui, à terme, vise à marginaliser l'alliance.
Néanmoins, l'interdépendance économique est réelle, oui. Notamment les semi-conducteurs. Je crois que le premier producteur est Taïwan, et d'ailleurs l'administration Trump a contraint cette entreprise taïwanaise à créer aux États-Unis même de nouvelles usines. En fait, Xi Jinping a intérêt à éviter une escalade avec la prochaine administration Biden, justement pour avoir le temps de continuer à construire son ambition, ou de réaliser son ambition d'une suprématie chinoise en matière de technologie.
Oui, mais on est déjà entré dans la première étape d'un découplage technologique que la Chine, elle, a acté. Même s'il y a un adoucissement côté américain, ce qui est peu probable à mon avis, parce que cette liste du département du commerce continue à s'allonger, et ça m'étonnerait vu le nombre d'entreprises listées qu'elle diminue rapidement. Mais pour la Chine, c'est acté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur les composants américains à terme. Bien sûr, aujourd'hui, il reste une dépendance forte, et beaucoup d'entreprises, y compris Huawei, accusent le coup. Mais à terme, l'objectif serait vraiment là d'investir massivement en recherche et développement, d'essayer de construire des semi-conducteurs, des microprocesseurs entièrement chinois. C'est vraiment l'objectif affiché aujourd'hui à Pékin, à Shenzhen, avec une visite récente de Xi Jinping à Shenzhen, c'est-à-dire le tout technologique pour que la Chine ne soit moins vulnérable vis-à-vis des sanctions américaines, et puis tout simplement moins indépendante des composants américains, mais aussi étrangers au sens large. Et ce qui est intéressant, c'est que la Chine ambitionne, et là c'est vraiment du long terme, mais si vous voulez, les prochaines élections américaines, ça sera bientôt déjà 2024, je sais qu'on parle comme ça, mais le calendrier chinois est celui-ci. Xi Jinping sera peut-être encore au pouvoir à ce moment-là.
Ah oui, c'est toujours toujours du long terme. Oui.
Voilà, puisque le 20e congrès du parti a lieu en 2022, il renouvellera lui-même sa présidence à cette occasion, et donc il voit le long terme, mais ce long terme, la préparation de ce long terme commence dès à présent par la construction d'un écosystème technologique qui soit de plus en plus autonome. Alors il y a la communication et il y a les faits, mais tout est fait aujourd'hui pour aller dans ce sens et à terme exporter cet écosystème technologique chinoise dans tous les pays qui sont encore disposés à accueillir ces technologies, et donc on rentrerait dans un monde de plus en plus bipolarisé sur le plan technologique, voilà. Avec aussi une coopération Chine-Russie dans ce domaine qui n'est pas négligée.
Et voilà qui nous ramène en Europe, Cyril Brett, parce que l'on sait que la politique commerciale, la guerre tarifaire avec l'Union européenne a été conduite par l'administration Trump. Est-ce que c'est un fait accompli, ou est-ce que l'administration Biden sera plus ouverte, non seulement, comme vous l'avez dit, à un comportement plus amène vis-à-vis de ses alliés, mais en matière commerciale et économique, plus ouverte au libre-échange?
Oui, je pense que là encore une fois, l'administration Trump, par-delà les effets de manche très désagréables pour les Européens et pour leurs intérêts, a réalisé un fait accompli qui est la relocalisation d'un certain nombre d'industrie. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il ne faut pas s'illusionner sur le retour au multilatéralisme réalisé par l'administration Biden ou promise par l'administration Biden. Des messages d'amour seront envoyés, c'est évident, notamment la renonciation à la dénonciation brutale et au relèvement imprévisible des droits de douane, notamment sur les métaux, l'aluminium par exemple, mais sur le fond et dans le long terme, l'objectif de l'administration américaine ne peut être que la reviviscence de la base industrielle, civile ou militaire américaine. Et là, les swing states, les fameux états de la Rust Belt, de cette grande partie des états industrialisés ou désindustrialisés des Américains, vont peser très nettement dans l'action de l'administration Biden. Joe Biden a bien annoncé au début de son grand discours programmatique de politique étrangère que la politique étrangère, c'était de la politique nationale et intérieure, et que la politique intérieure, c'était de la politique étrangère. Donc les considérations sur le multilatéralisme, la nécessité de renforcer l'OMC, le libre-échange, seront de toute façon subordonnées à la capacité de l'administration Biden à s'assurer de la relance économique dans ces états de la Rust Belt. Donc des pas seront réalisés vraisemblablement sur la méthode et sur la procédure, mais sans doute pas sur le fond.
Avec le Brexit applaudi et encouragé par Donald Trump, le Royaume-Uni, d'une certaine manière, a perdu de son utilité pour Washington. C'est ce que remarquait en particulier Peter Rickett, qui était ambassadeur britannique à Paris et conseiller pour la sécurité. Et on a vu Joe Biden, qui est de descendance anglo-irlandaise, s'indigner des procédés de Boris Johnson s'agissant de l'accord conclu avec Bruxelles à propos de la frontière entre les deux Irlandes. Qu'est-ce que l'on peut attendre de l'attitude de la prochaine administration vis-à-vis de l'Union européenne? Est-ce que entre Paris et Berlin, on sait que du côté de l'Élysée, il y a de fortes attentes et un espoir réel d'établir un dialogue préférentiel. Comment, selon vous, vont se situer ces rapports prochains?
Je pense que les effets seront négatifs, mais sans doute pas positifs. Les effets seront négatifs au sens où l'administration Biden reviendra à une ligne moins intrusive dans les débats internes de l'Union européenne et sur une ligne qui sera beaucoup plus respectueuse de cette architecture multilatérale très particulière et très très importante qu'est l'Union européenne. En revanche, penser que l'administration Biden renforcera l'Union européenne ou développera des politiques qui lui seront favorables est une espérance que j'espère pas grand monde nourrit à Berlin, à Bruxelles ou encore à Paris. Le but d'une administration Biden à l'égard de l'Union européenne sera de disposer d'alliés qui seront coopératifs pour traiter de nouveau la question iranienne qui occupe une place très importante dans le projet du candidat Biden, traiter aussi la question de la menace russe, l'accord bipartisan entre républicains et démocrates sur le risque géopolitique que constitue la Russie pour l'Europe et pour les États-Unis amènera sans aucun doute à des coopérations qui seront plus poussées, mais là encore, ce ne sera pas l'Union européenne dans son ensemble qui tirera des bénéfices de l'action de l'administration Biden, mais plutôt les avantages ou les bénéfices que l'Union européenne réussira à arracher de nouveau à l'administration américaine.
Maya Kandel, on sait que le Parti démocrate et surtout l'aile gauche du Parti démocrate avait exprimé des ambitions pour lier davantage un programme de politique extérieure avec des priorités nationales différentes, ne serait-ce qu'en matière d'environnement. On imagine bien qu'avec un Sénat qui risque fort de rester à prédominance républicaine, là encore, il sera très difficile pour Joe Biden de nommer dans son propre gouvernement quelqu'un comme Elizabeth Warren, par exemple. Néanmoins, est-ce qu'il y aura, selon vous, cette inflexion, en tout cas en termes d'affichage des prochaines priorités?
Alors, c'est très difficile à dire pour l'instant, et c'est clair que les dynamiques intérieures et le score du Sénat peuvent limiter grandement cette ambition de la part d'une administration Biden. Mais si vous permettez, je voulais juste revenir un tout petit peu sur cet échange sur l'Union européenne et l'OTAN pour insister quand même sur deux points, parce que il y a des tendances profondes, et on va voir des continuités, elles ont été bien soulignées. L'attitude vis-à-vis de l'Union européenne est quand même une différence majeure entre l'administration Trump et une administration Biden. L'administration Trump considérait, et Pompeo avait repris cette rhétorique, considérait l'Union européenne comme un adversaire. Pour l'administration Biden, et en particulier là, on a le poids justement des débats internes démocrates et l'influence de cette aile progressiste, l'Union européenne doit être un partenaire. Et en fait, ça permet de pointer deux choses qui me semblent importantes. Alors, c'est vrai que sur le plan de Thomas Gomard parlait de la grande stratégie américaine, on a une tendance lourde d'une grande stratégie de plus en plus post-atlantique tournée vers la Chine. Et il est certain qu'on va voir une continuité, enfin une poursuite des efforts de redéfinir l'OTAN comme une forme d'alliance d'OTAN globale, hein, les Américains disent. Et donc, tourner vers la Chine, ça va provoquer des débats en Europe et notamment en France, ça c'est pas fini. Et donc, appuyer là-dessus, effectivement, une volonté de transfert, plus que de partage du fardeau, peut-être de transfert du fardeau, c'est-à-dire une volonté que les Européens prennent réellement en charge la sécurité de leur environnement régional. Et je pense en particulier au flanc sud, peut-être davantage que au flanc est. Mais il y a aussi une conscience très vive aux États-Unis, et notamment côté démocrate, que on a une même si on a une rebipolarisation du monde avec cet affrontement entre les États-Unis et la Chine, la nature des défis, des enjeux, des menaces est profondément différente par rapport à la guerre froide, hein. Il y a les enjeux, Alice Ekman parlait des enjeux technologiques, Cyril Bray des enjeux commerciaux, il y a les enjeux numériques plus largement, et là en fait on est sur des sujets qui ne peuvent pas réellement être traités par l'OTAN, qui ne sont pas du domaine de l'OTAN, qui est une alliance militaire, et des domaines où pour les pays européens, souvent, c'est l'Union européenne qui est le partenaire qui décide sur les sujets commerciaux. C'est l'Union européenne qui peut être une force, multiplicateur de force pour les pays européens sur les sujets technologiques. Et donc là, je pense qu'il y a quand même une différence importante, et même plus, je dirais, pour un pays, les États-Unis, qui va être de plus en plus quand même absorbé par ces crises internes. Le verdict quand même de cette élection, c'est un ancrage de la division, de la polarisation, un problème de gouvernance, etc. Il y aura de toute façon moins d'attention, moins d'énergie consacrée à la politique étrangère, et donc je pense les secteurs démocrates ont évolué sur leur philosophie, sur le leadership américain, et ils vont être en attente aussi, ils vont être demandeurs même d'initiatives, de propositions de la part des partenaires. Alors il n'y a pas que les Européens, il y a les partenaires asiatiques qui vont peut-être même être sans doute plus importants sur un certain nombre de sujets, mais il y a quand même ce monde atlantique occidental qui reste important pour les États-Unis, oui, et sur lequel il faut que les Européens fassent des propositions.
Il était intéressant de voir, il y a trois jours, je crois, le ministre allemand des Affaires étrangères. L'Allemagne, donc, continue de présider l'Union européenne jusqu'à la fin décembre. Ensuite, ce sera le Portugal qui prendra la relève. Et donc, M. Maas disait, cette élection américaine, c'est l'occasion pour l'Europe de redéfinir ses rapports avec Washington. Est-ce que cela veut dire, quel que soit le successeur de Mme Merkel, dont le mandat arrivera à son terme à la fin de l'année prochaine, est-ce que vous pensez, Maya Kandel, que Berlin et Paris pourront rester à l'unisson sur ces ambitions-là?
Alors, il y a certainement un très fort espoir de ce côté-là à Paris. Par contre, je pense que c'est vraiment du côté de Berlin et de l'Allemagne que les Allemands ont un travail à faire sur eux-mêmes, s'agissant de leur attitude vis-à-vis des États-Unis. On a vu là ces derniers jours, les Allemands attendaient un peu le retour de Biden comme le Messie et le fait que tout s'arrange, etc. Là, clairement, même si Biden est élu, même s'il est élu avec une marge de plusieurs millions de voix, on voit bien que le système électoral américain fait que ça va continuer à se jouer sur une poignée d'électeurs dans ces États du Midwest et de la Rust Belt. Et donc, il va y avoir une incertitude persistante. On pourrait avoir la même durée, les mêmes genres de décomptes en 2024. Et donc, on va continuer à être soumis à des alternances, potentiellement à des alternances assez brusques aux États-Unis, avec une persistance des problèmes intérieurs et éventuellement des alternances comme on a vu, c'est-à-dire que on voit bien depuis 20 ans, Bush avait essayé de défaire ce qu'avait fait Clinton, Obama voulait défaire ce qu'avait fait Bush, Trump après Obama, enfin, et donc une instabilité qui devient un donné, une instabilité de l'attitude internationale quand même des États-Unis. Contre laquelle il faut se prémunir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la France a développé tout cet agenda de souveraineté européenne qui signifie simplement que les Européens, à un moment, doivent déterminer leurs propres objectifs, leurs stratégies, opérationnaliser les moyens d'y parvenir, sans à chaque fois dépendre de attendre le résultat des élections américaines et attendre de savoir quelle sera l'attitude du président américain à leur égard.
Et donc, précisément, Thomas Gema, on arrive à la conclusion provisoire de cette discussion. Une occasion, une opportunité et peut-être même une ardente obligation pour les Européens de définir et de mieux affirmer leurs priorités à eux, quelles que soient les grandes lignes de force décrites par les uns et les autres depuis le début de cette émission.
Oui, bien sûr, il y a là une opportunité à saisir pour les Européens. Peut-être pour prolonger et conclure, moi j'ai un point d'accord et désaccord avec Maya Kandel. Le point d'accord, c'est qu'effectivement il y aura un changement dans l'attitude de l'administration Biden vis-à-vis de l'Union européenne. C'est certain, elle sera plus qualifiée d'adversaire et donc ça en soi, c'est un changement politique majeur. En revanche, sur l'appréciation qui est faite de la nécessité pour les Allemands de travailler, à faire un travail sur eux-mêmes, moi j'inviterais aussi Paris à essayer de bien comprendre ce que Berlin veut vraiment faire en réalité. C'est-à-dire que je crains parfois on surestime l'aspect, la volonté allemande d'autonomie stratégique européenne. Vous mentionnez la déclaration du ministre allemand des Affaires étrangères, mais il y a également eu cette semaine la déclaration de la ministre de la Défense allemande qui a indiqué qu'il fallait dissiper les illusions de l'autonomie stratégique européenne. Autrement dit, je pense que l'élection de Biden est un sujet d'abord qui va rejouer sur la relation franco-allemande de manière probablement plus forte que ce à quoi on pouvait s'attendre.
Que sait-on, Thomas Gomard, de l'entourage de Joe Biden? On sait qu'Anthony Blinken, qui était déjà avec lui lorsqu'il était vice-président, Anthony Blinken est parfaitement francophone, il a fait une partie de ses études à Paris. On sait qu'il y a plusieurs diplomates de style tout à fait classique, comme les deux Burns, que l'on a vu à l'œuvre auprès d'Hillary Clinton dans la précédente administration démocrate. Que sait-on? Est-ce qu'on a déjà une idée? Qui sera le prochain secrétaire d'État? Qui sera le conseiller à la sécurité nationale?
À titre personnel, je l'ignore. Peut-être êtes-vous mieux informé que moi là-dessus.
Sûrement pas.
Sur l'aspect... Je pense que votre formule est la bonne, c'est-à-dire qu'on a tout cet écosystème qu'on connaît parfaitement, avec le revolving door, etc., de gens là qui se préparent, qui doivent être d'ailleurs à couteau tiré les uns par rapport aux autres. Oui. Vous avez mentionné effectivement
William Burns, Nick Burns, Anthony Blinken, on peut citer, aussi citer Tom Donilon, Julian Smith, Jack Sullivan. Enfin, la liste est aussi longue que la composition des think tanks au fond de,
exact,
de Washington.
Ouais.
Bon, donc là-dessus, je pense qu'il faut pas passer trop de temps à spéculer. On verra ce qui sera décidé. En revanche, ce qui me semble plus intéressant, c'est de se demander est-ce que la partie gauche du Parti démocrate va être représentée. Il y aura des postes importants. Et en particulier, quel avenir pour quelqu'un comme Matt Duss, qui avait été très critique, notamment vis-à-vis d'Israël. Quel avenir pour quelqu'un comme Chris Murphy, qui a été très critique vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Ça, je pense que c'est une réponse politique qui est attendue. C'est-à-dire que ça sera aussi les équilibres au sein du Parti démocrate qui se reflèteront peut-être dans l'appareil diplomatique américain, qui est quand même très sinistré. Après 4 ans de présidence Trump, il y a le livre de Ronan Farrow, Paix en guerre, qui décrit la décrépitude en fait du Département d'État. Donc il y aura aussi probablement une phase, je dirais, de re-engineering de ce Département d'État. Et pour finir, je crois qu'il faut se souvenir aussi que Joe Biden, désolé de finir là-dessus, mais a été le vice-président de Barack Obama. Ça veut dire qu'il aura aussi à gérer cet héritage-là, et notamment des dossiers laissé ouvert par l'administration Obama. Je pense en particulier à l'Ukraine, je pense en particulier à la Libye et évidemment à la Syrie.
Une question encore, Thomas, en ce qui concerne Kamala Harris, donc qui sera, si tous ces chiffres se confirment, dans les heures ou les jours qui viennent, la vice-présidente. Kamala Harris, sénatrice de Californie, faisait partie de la commission du renseignement du Sénat. Et on sait à quel point les enjeux de cybersécurité sont devenus majeurs et beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient déjà sous la présidence Obama. Donc quel peut être son rôle à elle dans une sorte de répartition des tâches?
Sur son positionnement personnel, très franchement, je ne saurais pas vous répondre. En revanche, sur l'importance des questions cyber et au fond sur l'importance grandissante de ce qu'on pourrait appeler le complexe militaro-numérique, ça sera aussi un élément de continuité de ce que je disais initialement, de continuité de la grande politique, de la grande stratégie américaine. C'est-à-dire que, et c'est quelque chose d'ailleurs qui va s'exercer en partie aux dépens des Européens, on est dans une collusion extrêmement étroite entre l'appareil de sécurité américain et les grandes plateformes qui sont aujourd'hui au cœur de nos vies. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut s'attendre à un renforcement de cette proximité, précisément un renforcement de cette proximité, précisément dans l'optique de la lutte contre la Chine.
Eh bien, merci à tous, merci à vous, Thomas Gomard, directeur de l'Institut français des relations internationales. Vous vous apprêtez à publier en janvier chez Taillandier « Guerres invisibles, nos prochains défis géopolitiques ». Eh bien, vous venez tous d'en esquisser quelques-uns et on se souvient bien sûr de votre dernier livre « L'affolement du monde » chez le même éditeur. Merci à vous, Maya Kandel. Vous avez écrit « Les États-Unis et le monde » de George Washington à Donald Trump chez Perrin en 2018. Alice Ekman, vous avez écrit un excellent livre « Rouge vif, l'idéal communiste chinois » qui a été publié cette année aux éditions de l'Observatoire. Merci à Cyril Brett, un très bon livre aussi. 10 attentats qui ont changé notre monde, comprendre le terrorisme au XXIe siècle chez Armand Collin. Et je remercie très vivement Igor Jurgens, le directeur de l'Institut de développement contemporain à Moscou. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique Théo Gomard, Hugo Boursier a préparé cette émission avec moi comme chaque semaine et comme chaque samedi. Vous avez rendez-vous maintenant avec Hervé Gardette. Très bon week-end, à samedi prochain.